du début à la fin, d'un bout à l'autre, et donc de Genèse à l'Apocalypse, il y a dans la Bible une idée de dessin qui se développe. À chaque moment, les événements avancent en ligne droite à partir d'un début absolu et en allant jusqu'à une finalité qui est aussi, elle, absolue. L'histoire est à tout instant un plan divin en cours de réalisation. Nous, nous existons, nous vivons, et de ce fait-là, nous sommes déjà embarqués dans ce dessin. C'est comme si nous étions passagers dans une fusée spatiale, qui est partie dans l'espace. Et nous sommes déjà donc voyageurs. Là-dessus, nous n'avons pas le choix. Mais nous avons quand même un choix. Nous pouvons rester à bord sur ce vaisseau en faisant confiance au commandant, ou nous pouvons décider d'abandonner le vaisseau. C'est de ça qu'a parlé Blaise Pascal dans son célèbre pari, dans ses pensées, parlait de son pari et disait « Ceci n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. » Donc nous sommes embarqués, nous avons un choix à faire parce que nous nous trouvons déjà pris au milieu d'une chose qui est déjà développée. Quel que soit le dessein de Dieu, nous ne pourrions jamais le connaître si lui n'avait pas décidé, et ne décide pas toujours, de nous le révéler. Les spéculations théologiques et les intuitions mystiques ne nous mèneraient pas très loin. D'ailleurs, les Écritures ne sont pas présentées comme le fruit du génie religieux du peuple juif. C'est plus que cela, bien plus que cela, c'est une révélation de Dieu. Et dans cette révélation, il y a un dessein d'amour que Dieu a formé en faveur de tous les hommes. Pris dans leur ensemble, les livres de la Bible racontent une histoire. C'est une histoire sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Comment Dieu, progressivement et au cours des siècles, révèle le contenu de son plan, comment il l'accomplit, et comment il nous appelle, nous, êtres humains, à y faire part. Si ce que la Bible dit est vrai, nous vivons dans une société occidentale actuelle, qui est construite sur une illusion. Parce que pour les gens de notre monde aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est ce qui est physique. C'est-à-dire, leur monde à eux est un monde physique, un monde d'objets et de choses matérielles. On parle du soleil, de l'univers, on parle de l'atome et de tout ce qui forme l'atome, mais on reste à un niveau tout à fait physique. On veut savoir le comment, et on finit par le savoir souvent, mais on ne peut pas souvent, et on ne cherche même pas souvent, à savoir le pourquoi. Pourquoi toutes ces choses existent-elles? Quel est le dessein qui nous a amenés jusqu'ici? Pour donner un peu un exemple de cette mentalité de notre monde, selon la Bible, les relations sexuelles existent pour une raison bien précise dans le dessein de Dieu. L'homme et la femme ont été créés pour connaître l'amour. Et cette union conjugale est l'expression la plus ultime de l'amour humain. Et aussi, cette expression de l'amour humain représente aussi le lien qu'il y a entre Dieu et son peuple. Mais pour le monde de la science, cette notion de dessein n'existe pas. Donc il faut trouver d'autres explications pour ce phénomène que l'on rencontre tous les jours. Cette sexualité qui existe sur la Terre. Alors, le professeur Lynn Margulis de l'Université de Massachusetts a proposé une hypothèse qui est assez typique. Selon sa théorie, il y a 1,5 milliard d'années, les temps étaient durs sur la Terre, et il y avait une sorte de famine pour les cellules qui existaient à ce moment-là. Et ces organismes unicellulaires ont été réduits à se dévorer les uns les autres. Il fallait bien pour survivre. Parfois, ce repas, qui était plutôt cannibale, était imparfaitement digéré, pas très bien digéré. Si bien que le noyau du prédateur et de sa victime fusionnaient. Vous voyez où il va en venir. En unissant leurs forces, les deux cellules fusionnées s'en trouvaient donc plus aptes à survivre et à transmettre à leurs descendants un penchant pour l'union. Et voilà, la sexualité humaine est née à partir d'une indigestion. Mais pour la communauté des croyants, les choses sont bien, bien différentes. On voit bien dans la Bible un dessein qui est développé et qui donne à toute chose sa vraie signification. La frontière entre cette croyance et le monde, ou la frontière entre l'Église et le monde, est appelée conversion. Conversion qui ne se définit pas simplement adopter un ensemble de pratiques religieuses et morales, mais, selon le grec, le mot conversion veut dire changement de mentalité, changement de pensée et même changement de monde mental. Un chrétien pense autrement que les gens qui sont autour de lui. Il voit les choses différemment. Un chrétien croit avec tout son cœur que Dieu a vraiment agi dans l'histoire mondiale pour accomplir son dessein et que ce n'est pas simplement une philosophie personnelle que quelqu'un, quelque part, a inventée. Tant que le christianisme se présentera comme une des nombreuses variétés possibles du phénomène socio-culturel de la religion, eh bien notre société n'aura pas de mal à s'en accommoder. Par contre, il y a une chose que la société n'acceptera pas, c'est que les chrétiens ont une foi qui repose sur des faits même historiques. Il y a une chose que la société ne peut pas accepter, parce que c'est irrationnel pour la société, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection corporelle de Jésus-Christ est une chose irrationnelle pour le monde dans lequel nous vivons. Parce que, selon les règles de la science, un corps qui est mort ne ressort pas de son tombeau. Un point, c'est tout. Donc il y a, voyez-vous, une certaine tension entre ce que les chrétiens croient et que les gens autour croient. Les gens du monde considèrent que l'Évangile est, au pire, une sorte d'obscurantisme et au mieux, une gentille petite tradition folklorique. On tolère les chrétiens tant qu'ils restent sagement cantonnés dans leur ghetto religieux. Mais ceci, les chrétiens ne peuvent pas se le permettre. Car Dieu nous a donné une mission, et cette mission, c'est de témoigner de lui et de donner un témoignage à la vérité. La vérité, il n'y en a pas 36, il n'y a qu'une seule. La vérité doit être publique. Il y a une seule vérité pour tous, malgré ce qu'on dit aujourd'hui au sujet de chacun sa vérité. Mais une vérité privée, pour un cercle limité de croyants, eh bien, ça ne serait pas la vérité du tout. Ça n'est pas possible dans ce sens-là.
Bon, le dessein de Dieu que nous allons aborder aujourd'hui, que nous allons étudier pendant les 3 semaines qui viennent, c'est-à-dire aujourd'hui, la semaine prochaine et après, 21 et 28, est une étude de l'œuvre de Dieu révélée par la Bible. Et je vais vous conseiller, si vous voulez, vous avez entre vos mains une sorte de cahier de textes, un recueil de textes que nous allons consulter pendant cette étude. Donc j'aimerais vous demander de prendre les notes, si vous voulez, dans les marges, peut-être noter les choses qui vous frappent, qui vous étonnent, que vous avez appris, ou aussi des questions. Comme Charles a dit au début, à la fin de chaque séance, c'est-à-dire à la fin de la première, deuxième heure, on va laisser le temps pour poser des questions. Bon, bien sûr, s'il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris du tout et vous voulez demander une explication au cours de la présentation, vous pouvez le faire, mais j'aimerais, si possible, le plus possible, attendre la fin de chaque séance pour les questions. Bon, le mot « Bible », quand on parle d'une Bible, vient du mot grec au pluriel « ta biblia », qui veut dire littéralement « les livres ». Donc, ce n'est pas le livre, mais les livres. Donc, la Bible, en effet, n'est pas un ouvrage homogène, mais plutôt un assemblage ou un recueil de nombreux ouvrages, des livres différents, écrits par des différentes personnes. Par exemple, dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui, il y a 66 livres qui sont des livres reconnus comme partie de la Bible. Et il y avait une quarantaine d'auteurs qui ont écrit ces 66 livres pendant une époque, où, on peut dire à des époques différentes, qui s'étend sur 15 siècles. 15 siècles. Donc cela nous donne un volume assez épais, avec à peu près 2000 pages de textes bien serrés. Plus qu'un livre, donc, la Bible, je dirais, c'est une histoire. Et c'est peut-être ce mot-là que j'aimerais qu'on retienne pendant toute cette série d'études. C'est que la Bible contient une histoire. Malheureusement, Nous laissons souvent la masse de textes bibliques qui s'y trouvent masquer l'unité fondamentale de l'histoire biblique, que son évolution à travers les siècles, parce qu'il y a une évolution, comme Charles a mentionné, des faits historiques, et nous allons voir ces choses-là. Souvent, comme dit le dicton, les arbres cachent la forêt. Et c'est un peu le cas pour nous trop souvent. Cette catéchèse que nous avons préparée se propose de suivre tout au long de la Bible ce que je dirais ou appelle un fil conducteur, le fil conducteur qui nous fera un chemin à travers la forêt de textes que nous avons dans la Bible. Et bien sûr, vous avez entre vos mains des textes, mais vous n'avez pas du tout tous les textes de la Bible. Il faut un livre comme ça pour avoir tout, bien sûr. Bon, ce fil conducteur qui traverse l'histoire, qui traverse les textes de la Bible, ça s'appelle le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu que Dieu a conçu avant la création du monde et dont la Bible nous raconte la réalisation progressive dans l'histoire humaine. Et en quoi consiste ce plan? Qu'est-ce que c'est le dessein de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Bon, le premier texte que vous avez là, c'est Éphésiens chapitre 1. Les versets 7 à 10. En Jésus-Christ, voilà le dessein de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et l'apôtre Paul énonce ici, et je crois que c'est marqué dans votre recueil, de deux idées maîtresses du dessein de Dieu. Si vous voulez, il énonce les deux brins de ce fil conducteur, ce fil conducteur soit tressé. Et le premier brin qui se trouve dans ce passage, de ce fil conducteur, c'est la rédemption de l'humanité qui est liée à la mort de Jésus pour le pardon des péchés. Et si vous voulez peut-être souligner dans votre texte, dans le verset 7, il y a la phrase « la rédemption par son sang », le premier brin. Mais le deuxième brin de notre fil conducteur, c'est le règne du Christ sur tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Cela veut dire, dans le langage biblique, que Jésus règne sur l'univers entier et tous les êtres qui l'habitent, surtout les hommes et les anges. Tout le mouvement de l'histoire s'oriente vers l'accomplissement de ce dessein, de ce qu'il veut accomplir dans l'histoire. Et donc, dans le verset 10 de ce même texte, vous trouverez un seul chef, le Christ. Voilà les deux thèmes. La rédemption et le règne du Christ. Bon, l'œuvre de Dieu va, en vue de réaliser ce projet, s'accomplit en quatre temps. Et si vous voulez bien regarder la page en face de ce premier texte, vous verrez le plan de l'étude. Il y a le commencement, les temps, qui commence bien sûr avec la création, qui va jusqu'à Abraham, le patriarche Abraham. Il y a les temps de préparation à partir du patriarche Abraham jusqu'après le retour et la restauration des déportés hébreux. Et puis, il y a les temps d'accomplissement, à commencer avec la venue de Jésus et jusqu'à dans le temps de l'Église, c'est-à-dire maintenant. Nous sommes dans ce temps d'accomplissement. Et puis, quatrièmement, il y a la fin des temps qui arrive avec le retour de Jésus. Voilà donc les quatre grandes étapes de l'histoire sainte que nous allons parcourir, que nous allons suivre avec ce fil conducteur à travers les textes de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir les deux premiers, le commencement des temps et les temps de préparation. Chose importante, à travers cette histoire, encore ce mot histoire, à travers cette histoire, Dieu va parler et il va agir. Il va parler, il va agir. Il va injecter sa parole agissante. Ce n'est pas une parole stérile, mais sa parole agissante dans l'histoire. pour mener les événements vers le but qu'il s'était fixé. C'est donc lui, l'acteur et l'auteur principal de la Bible. Bon, quand vous lisez votre Bible, vous pouvez prendre n'importe quel texte de la Bible, l'Ancien ou Nouveau Testament, et vous allez voir toutes sortes d'histoires d'hommes et de femmes. Des personnages assez importants, d'autres qui ne sont pas très importants. Mais l'acteur et l'auteur principal de la Bible, c'est toujours Dieu, malgré ce qui est raconté au sujet des gens. C'est ainsi que la Bible doit être lue, avant tout comme un témoignage historique sur Dieu et sur son dessein, ce qu'il veut accomplir pour les hommes. Bon, la question se pose, comment pouvons-nous savoir si ce témoignage est vrai? Comment est-ce que je peux savoir ce que je lis là est vrai? La vérité de la révélation biblique nous est garantie surtout par l'histoire même de sa révélation. Cela veut dire que la meilleure apologie du dessein de Dieu, ou la meilleure défense du dessein de Dieu, c'est de raconter le dessein de Dieu. Laissez parler ce que Dieu nous a révélé. Et en laissant parler ces choses-là, on va découvrir que toutes ces choses s'avèrent exactes selon l'histoire que nous pouvons lire dans l'histoire profane au lieu de l'histoire sainte. Mais c'est ça. Dieu veut qu'on comprenne qu'il est, lui, le maître de tout.
Le commencement des temps. Les 11 premiers chapitres du livre de Genèse forment une sorte de prologue à toute la Bible et il plante le décor pour ce qui va suivre. Et dans ces 11 premiers chapitres, nous avons une description des origines du monde et de la race humaine. Nous avons une description de comment le mal et le péché sont entrés dans le monde et avec eux la mort. Et pourquoi nous avons besoin de rédemption. Dans son livre « Dieu et la science », Jean Guiton dit que la première question est la plus obsédante de la philosophie, ou de la recherche plutôt philosophique, est celle-ci. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'où vient ce que nous avons devant nous? D'où est-ce que nous venons? Pourquoi y a-t-il quelque chose? Et pourquoi n'y aurait-il pas plutôt rien du tout? Qu'est-ce qui s'est passé au début du temps? D'ailleurs, d'où vient le temps? Pour que le monde tel que nous le connaissons existe tel qu'il est aujourd'hui. La vie humaine est-elle apparue au hasard ou au contraire est-elle le résultat d'un dessein ou d'un projet universel? Depuis quelques années, les chercheurs les plus en pointe commencent à abandonner l'idée que le monde ait pu être fait par le seul hasard. Les biologistes ont calculé que la probabilité pour que une cellule vivante avec les enzymes qu'il faut pour qu'une cellule vivante se fasse, la probabilité qu'une cellule vivante se forme toute seule, par hasard, même si on accordait pour cela quelques milliards d'années, est de l'ordre de 10 à la millième puissance contre 1. 10 à la millième puissance contre 1. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait beaucoup de zéros. Mais je trouve ça un peu difficile à suivre. Je vous donne un autre exemple que j'ai lu ailleurs. C'est comme si on pouvait trouver d'un seul coup et sans hésiter, un grain de sable noir dans une couche de sable blanc d'un mètre de profondeur qui couvrait la France et la Belgique. Voilà les chances pour lesquelles une cellule vivante puisse venir à l'existence toute seule. Autrement dit, la probabilité mathématique que la vie telle que nous la connaissons existe par hasard est nulle ou quasiment nulle. Autant prétendre que le grand Robert, le dictionnaire, le grand Robert, est le résultat d'une explosion dans une imprimerie. Et encore, il y aurait plus de chances que cela arrive que l'autre. Donc si le monde se présente tel que nous le connaissons, construit et réglé avec la précision inimaginable et insondable que nous connaissons, mais nous ne connaissons pas parce que nous n'arrivons pas, nous êtres humains, à cerner tout cela, c'est bien que notre existence avait été prévue à l'avance et minutieusement préparée depuis le départ.
Donc, deux questions se posent. Qui avait l'intelligence pour créer le monde si complexe et pourquoi? Qui avait l'intelligence et pourquoi? Et pour trouver la réponse à ces questions, la recherche scientifique ne nous serait d'aucune utilité. Ça ne nous aide pas du tout. Il faudra recourir à un autre langage, celui du témoignage historique. Car la Bible est le récit des actes du Dieu vivant, qui a non seulement créé le monde, mais a aussi parlé aux hommes pour leur dire pourquoi il a créé. Donc Dieu se révèle, il dit, moi je vous parle, je vous révèle ces choses et je vous dis pourquoi je le fais. Donc si Dieu s'est donné la peine de créer tout ce que nous voyons, il a dû avoir une raison. Après tout, il aurait pu ne rien créer du tout. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais Dieu se portait très bien sans nous. Il n'avait pas besoin de nous, et il n'a pas besoin de nous à cette époque non plus. Bon, dans un discours adressé aux philosophes de la ville d'Athènes, l'apôtre Paul a parlé du Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Et c'est le texte en Actes chapitre 17, les versets 27 et 28. Il a fait cela pour qu'il le cherche et qu'en essayant d'entrer en contact avec lui, il le trouve peut-être. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, nous pouvons nous mouvoir et nous sommes. Bon, quel avantage y a-t-il à trouver Dieu? Pourquoi trouver Dieu? Bon, Paul dit, en Dieu est la vie. Voilà la réponse. En Dieu est la vie. Et cette vie n'est pas seulement une vie ou une existence biologique, mais une vie d'amitié avec lui. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Par exemple, dans une prière que Jésus a priée juste avant son arrestation et sa crucifixion, c'était la nuit de son arrestation. Cette prière se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, vous avez le verset 3 là. Jésus a prié ceci. « La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. » Qu'est-ce que c'est la vie? Ou qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est connaître Dieu. C'est la générosité créatrice, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui nous a donné la vie lors de la création, tout comme l'amour d'une mère permet à un enfant d'accéder à la vie par la procréation. L'amour est donc une donnée de l'univers antérieur à la vie, et non le contraire. Dieu nous a aimés, j'aime bien ceci, Dieu nous a aimés avant de nous créer, pour que nous puissions connaître la joie de l'aimer en retour. Il a fallu évidemment que cet amour soit librement donné de notre part. Il nous aime, il nous a créés, mais il attend de nous un amour libre. Parce qu'un amour contraint ou programmé n'est pas de vrai amour. Aussi, Dieu a-t-il doté le monde d'une certaine mesure d'autonomie. Il a fourni un espace vital à l'intérieur de laquelle nous sommes libre de chercher, libre d'enquêter, libre de poser des questions. En effet, Dieu veut qu'on pose des questions. Dans un autre contexte complètement, Jésus avait dit une fois, celui qui cherche trouvera. C'est une promesse. Celui qui cherche trouvera. Donc il nous encourage justement de chercher. Il nous a donné Dieu ce que les théologiens appellent libre arbitre. Bon, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais cela veut dire que nous avons la possibilité et le droit de choisir. Nous pouvons choisir oui ou non pour Dieu. Et c'est notre droit. Malheureusement, nous ne pouvons, depuis la chute, chercher qu'à tâtons. C'est-à-dire, c'est comme si on a les yeux fermés, on essaie de distinguer ce qu'il y a devant nous. Ou on marche dans les ténèbres ou dans le noir et on essaie de comprendre ce qui est devant nous pour ne pas tomber. C'est un peu comme ça la recherche de Dieu quand on n'a pas quelque chose qui nous aide. Livrés à nous-mêmes, nous tombons inévitablement dans les erreurs du paganisme, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, nous fabriquons un Dieu à notre image. Nous ne trouvons pas Dieu, nous n'avons pas même cherché Dieu, mais on veut quelque chose, donc on crée quelque chose pour prendre la place de Dieu. Donc si dans la Bible, les hommes et les femmes rompent avec l'idolâtrie et retrouvent Dieu, c'est uniquement parce qu'il leur a parlé le premier et ils ont choisi de l'écouter.
Genèse chapitre 2, verset 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin à Éden, en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qui l'avait formé. Depuis un certain temps, les savants et surtout les théologiens essayent de nous faire croire que ce jardin d'Éden n'a jamais existé et que ce n'est qu'un mythe. Ils sont convaincus que c'est le cas. Et donc ils voudraient faire croire aux chrétiens aussi que ce jardin n'a jamais existé. Dans une lettre de J.R.R. Tolkien à son fils, il dit ceci: un jardin d'Éden a certainement existé sur cette planète malheureuse. Nous en avons tous la nostalgie. Les philosophes ont beaucoup examiné cette idée de la musique qui nous fait pleurer, des poèmes qui nous touchent le cœur, pour se demander d'où vient cette nostalgie, de quel passé. Tous sommes sortis pour que nous ayons des souvenirs inconnus et qui nous font pleurer pour une musique que nous n'avons jamais entendue. Et nous, dans nos moments les plus lucides, nous nous rendons quand même compte que le monde matériel dans lequel nous vivons, avec toutes ses joies, avec tous ses plaisirs, n'est pas vraiment notre demeure finale, n'est pas notre patrie. Nous ne nous appartenons pas tout à fait à cette patrie. Vous pouvez prendre l'avis la personne la plus célèbre que vous voulez choisir. Moi, j'ai marqué Johnny Hallyday, par exemple. Prenez la célébrité que vous voulez choisir. Une personne comme cela a tout l'argent qu'il aurait pu vouloir, et encore. Il a les femmes, il a la célébrité, il a tout ce que notre monde établit comme ce qu'il faut avoir pour être une réussite. Et pourtant, je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous certifier que cet homme n'est pas heureux, il n'est pas comblé. Il y a quelque chose qui manque en lui, comme c'est le cas pour tous les autres stars qui sont adorés, mais qui ne sont pas contents, qui n'arrivent pas à être heureux. C'est que tout ce que ce monde matériel est capable de nous offrir ne suffit pas. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qui manque. L'expression « aller au paradis », dans un sens tout à fait biblique, veut dire rentrer chez nous, rentrer là d'où nous venons. Dans un sens, l'humanité a eu ses débuts dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, et nous avons oublié, nous sommes partis de cet endroit par l'histoire que vous connaissez. Alors, réaliser notre destinée exige un retour à cette origine. Nous appartenons à notre Père Céleste. Et, tout comme le Fils prodigue dans la parabole de Jésus, nous sommes là, assis ou couchés dans la boue avec les cochons, et nous rêvons de rentrer à la maison.
En plaçant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné un commandement. C'est le Genèse 2, les versets 16-17. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous connaissez bien la suite. Le tentateur, le diable, a tenté cet homme et cette femme, le premier couple, et il ne s'attarde pas à désobéir à ce commandement. Et c'est ainsi que le péché fait son apparition dans le monde. De nos jours, nous avons perdu la notion du péché au point que le mot même n'a plus aucune résonance d'horreur. Quand quelqu'un dit « Ah, c'est un péché », ça ne fait pas peur, ça nous fait rire presque quand on entend ce mot. Mais nous ne sommes pas moins pécheurs pour autant. Il faut bien cesser de faire des illusions sur nous-mêmes. Le plus tôt soit le mieux, car tant que le vieil Indien égaré loin de chez lui se disait « Indien ne peut être perdu, wigwam perdu », il n'arriverait pas à retrouver son chemin pour rentrer. Et il n'y a aucun espoir pour nous tant que nous n'admettons pas que nous sommes désespérément perdus. Tant que nous n'avons pas à nous-mêmes à quel point nous sommes mauvais à l'intérieur. Encore pire que vous ne l'avez jamais imaginé, a dit le poète Robert Browning. Et le roi David s'est écrié dans Psaume 65, La réalité de mes fautes ou des fautes me dépasse. Elle me dépasse aussi, moi, parce que le pouvoir du mal reste toujours un mystère pour moi. Il y a des choses que je ne veux pas faire, mais je le fais quand même. Il y a des choses que je dis, que je dise quand même. Donc c'est quelque chose qui me dépasse. Et le récit de la chute nous apprend quand même 5 vérités sur le péché qui nous aideront à saisir quelque chose de sa nature profonde, je dirais de son horreur. Il faut avoir le péché en horreur. Et je vous conseille maintenant, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est marqué dans votre cahier, mais sinon, de noter ces 5 vérités sur le péché pour nous aider à comprendre combien c'est terrible.
La première vérité, c'est que le péché est une violation de la loi de Dieu. C'est une bonne définition et elle est biblique. 1 Jean chapitre 3, verset 4, que vous avez sur votre cahier, « Car le péché est la désobéissance à la loi. » Pour la plupart des gens, cette notion de péché renvoie à la quête du plaisir, notamment du plaisir sexuel, encore une fois. Dans un ouvrage qui s'appelle « César », Marcel Pagnol, on peut lire une conversation entre deux personnages qui s'appellent Honoré et César. Et Honoré dit, eh bien oui, je l'ai fait ce péché, et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je l'ai fait avec plaisir. Et César de répondre, pardi, si les péchés faisaient souffrir quand on les fait, nous serions tous des saints. Autrement dit, Dieu est un vieux rabat-joie qui s'est fixé le but dans sa vie de nous gâcher la nôtre, et de nous interdire tout plaisir et de nous amuser du tout sur la terre. Mais rien ne pourrait être plus loin de la vérité. La loi de Dieu, ou les lois de Dieu, ne sont pas des règles arbitraires qui nous sont imposées dans le but de rendre notre vie triste ou pénible. Dieu nous les donne, ces règles, pour prévenir une déchéance morale qui nous rendrait malheureux et qui nous empêcherait d'être les êtres dignes qu'il veut trouver sur la terre. Ça nous empêcherait d'avoir la vraie joie qu'il veut nous donner en nous donnant ses lois. Mais l'homme est comme le cheval qui trouve l'herbe à l'autre côté de la barrière plus fraîche et plus verte. Alors il saute la barrière, seulement il se trouve dans un marécage boueux et il ne peut pas en sortir. Ce marécage, c'est le péché. Et plus longtemps nous sommes dedans, plus difficile c'est d'en sortir, et même c'est impossible, et plus on est dedans, et plus ça pue. On n'est pas content là-dedans, on est bien mal à l'air, mais on ne peut pas en sortir. C'est là la situation de l'homme sans Dieu. Deuxième vérité sur le péché, c'est que le péché naît d'un esprit d'égocentrisme et de rébellion contre Dieu. Le diable, pour accrocher Adam et Ève, il a attisé leur désir d'être comme des dieux. Et soit dit en passant, il n'a pas changé de tactique, il fait toujours la même chose aujourd'hui. Les gens voudraient être Dieu de leur vie, remplacer Dieu et détrôner le vrai Dieu pour se mettre à la place, pour décider eux-mêmes du bien et du mal. Et on se met au centre du monde et on fait de ses propres désirs malsains, et de ses propres instincts égoïstes, plus souvent, la loi de sa conduite. Et on dit, moi je fais ce que je veux. Vous l'avez dit peut-être, moi aussi, c'est un signe que nous sommes attirés par ce désir d'être les maîtres de notre propre destin, d'être à la place de Dieu. Eh bien, depuis la chute, le feu de la rébellion fait rage sur la terre, dans le cœur de chaque être humain.
La troisième vérité, en ce qui concerne le péché, c'est que le péché fait un esclave du pécheur. Le péché fait un esclave du pécheur. Le péché ne devient pour le pécheur une sorte de drogue dont il ne peut plus s'en passer. Au départ, nous sommes des pécheurs parce que nous avons commis des péchés. C'est-à-dire des petites choses que nous avons faites sans vraiment réfléchir, mais nous avons fait ces choses-là. Mais, en peu de temps, nous commençons à pécher parce que nous sommes pécheurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence là, mais c'est-à-dire, nous ne pouvons plus arrêter, malgré, et c'est un peu ce que Charles vient de dire, malgré toutes nos bonnes résolutions, malgré toutes nos bonnes intentions, même quand nous nous rendons compte que notre comportement est en train, bien sûr, d'abord de déshonorer Dieu, aussi de gâcher notre propre vie, mais aussi de blesser ceux que nous aimons le plus cher, le plus. Nous sommes un peu comme l'alcoolique qui promet 3 fois par semaine de ne plus boire. C'est un peu notre cas. C'est mon cas. Je me rends compte parfois qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, mais je les fais quand même. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Jean 8, verset 34, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et voilà pourquoi, à mon avis, Dieu ne pouvait pas simplement imposer une pénitence quelconque sur Adam et Ève et les laisser rester dans le jardin. Il a dû les chasser du jardin. On n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont goûté le fruit défendu. Et ils sont intoxiqués ou drogués du péché. On n'a pas besoin de substances chimiques comme la cocaïne, le whisky ou autre chose pour être drogué. On peut se chuter de la médisance, par exemple. Ou on peut se chuter de la vantardise ou de la cupidité ou même de l'orgueil spirituel. La personne qui, en étant tout spirituel, très pieuse, dit « Moi, je suis mieux que vous. » Des choses comme ça. Bon, le péché porte toutes sortes de masques. Mais en dessous, c'est toujours la même tête de mort, le visage du même tyran qui cherche à nous asservir. Quatrième vérité du péché, c'est que le péché nous fait des objets du jugement divin. Le péché nous fait des objets du jugement divin. C'est-à-dire, Dieu ne tiendra pas le coupable pour innocent. Là où il y a péché, il y aura punition. Nous sommes obstinés pourtant dans notre péché qui nous fera condamner devant lui. Pourquoi? Et voilà la question que je me pose. Pourquoi Dieu a-t-il cette haine implacable du péché? Pourquoi est-ce que Dieu déteste le péché tellement? Parce que le péché corrompt le cœur de l'homme. Parce qu'il détruit en lui l'image de Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image sainte et pure. Mais ça détruit en nous l'image de Dieu. Et aussi, il déteste le péché parce que le péché endurcit l'homme contre l'amour et du bien. On pense plus à soi-même qu'aux autres. On fait ce qu'on veut parce que c'est ce qu'on veut, malgré ce qui peut arriver aux autres. Et Dieu déteste le péché parce que le péché empoisonne la vie et pollue l'univers. C'est-à-dire, ça ne reste pas avec moi, ça va plus loin que moi. Parce qu'il y a une pollution morale encore pire que la pollution industrielle. Nous contribuons tous, chacun pour sa part, à cette pollution. Seulement, nous y sommes tellement habitués que nous ne sentons pas plus la puanteur. Dieu avait averti Adam et Ève quelles seraient les conséquences ou la conséquence de leur désobéissance. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le jour que vous en mangerez, vous allez mourir. Voilà en effet le déchet le plus toxique du péché. L'apôtre Paul, en Romains 6, le verset 23, a dit « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. » Non pas seulement la cessation de vie biologique, mais ce qu'on appelle la mort spirituelle. Car la mort du corps n'est que le signe visible et concret d'une réalité intérieure. Mon péché m'a rendu inapte à la vie à laquelle Dieu m'avait destiné. Ce n'est pas que Dieu cesse de m'aimer à cause de mes fautes ou de mes péchés et me repousse avec une moue de dégoût. Ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt que ma rébellion, ce que j'ai choisi de faire contre Dieu, me détourne de lui et me corrompt au point que c'est moi qui repousse avec dégoût la vie qu'il m'offre. Et nous avons tourné les choses parce qu'on pense que c'est la faute de Dieu que nous souffrons. Non, c'est que Dieu nous offre des choses, mais on refuse. Le péché donc est mortel, mais cela ne veut pas dire que Dieu prend plaisir dans la mort du pécheur, pas du tout. En tant que descendant d'Adam, il nous est impossible de nous distancer de sa faute comme si elle ne concernait pas notre propre histoire, parce que ce qu'il a fait concerne notre histoire aussi. En Romains chapitre 5, le verset 12, l'apôtre Paul dit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Dans le péché, nous nous sommes rendus solidaires avec Adam, le premier pécheur. Nous nous sommes rangés de son côté. Nous sommes unis à lui. Ou on peut dire aussi, il est nous. Il est nous. Nous avons tous suivi le même chemin de rébellion. Il a pris avant nous et en quelque sorte comme notre représentant. Notre propre vie atteste qu'à sa place, nous aurions fait le même choix. Peut-être que ce n'est pas un arbre défendu, mais c'est autre chose. On aurait choisi quand même de désobéir à Dieu. Sans appartenir à notre nature essentielle, car le péché n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas que Dieu a mis en nous cette faiblesse de péché. Non, pas du tout. Le péché, quand même, atteint le plus profond de notre être et nous détourne de notre Créateur. Qu'allait faire Dieu avec cette race si décevante? Bon, il a créé l'homme, mais l'homme s'est rebellé contre lui. Qu'est-ce qu'il allait faire? Les anéantir et recommencer à zéro? De jeter à la poubelle? À sa place, bon, je crois que j'aurais été tenté de faire cela. J'aurais été tenté de commencer à zéro. Mais au lieu de cela, et par amour, Dieu a fait une promesse qui va permettre à l'humanité de regarder en avant vers une future distance, une délivrance future. De la femme, dit-il, sortira une descendance qui aura la mission de vaincre le péché et de sauver l'homme de la sentence de mort suspendue au-dessus de sa tête comme l'épée de Damoclès. Ce qui nous amène à la cinquième vérité fondamentale du péché.
Cette cinquième vérité, c'est que le péché, il est possible de le détruire sans pour autant détruire le pécheur. Le péché peut être détruit sans la destruction du pécheur lui-même. Au diable qui tentait avec succès Adam et Ève, Dieu prononce une prophétie plutôt énigmatique. Vous l'avez sur votre cahier, Genèse 3:15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. On appelle ce verset mystérieux le proto-évangile. Et c'est bien la première allusion dans la Bible à la venue future d'un Messie. Ce texte nous apprend qu'il y a une lutte entre l'humanité et le mal, et le serpent, et le diable. Et aussi que dans cette lutte, Dieu se range du côté de l'humanité. Il va se mettre à se battre pour l'humanité. Il va lui envoyer un champion qui affrontera tout seul Satan et qui sera victorieux contre lui, bien qu'il souffrira beaucoup pendant cette bataille. Ce héros vainqueur du diable qui viendra, qui sera-t-il, que sera-t-il, quelle forme prendra-t-il, d'où viendra-t-il, etc. Est-ce que ce sera un archange que Dieu enverra du ciel? Est-ce que ce sera un Robocop planétaire? Est-ce que ce sera un extraterrestre? Ceci n'est pas dit encore. Ce qui est dit, c'est que ce sera un descendant de la femme, tout simplement. Un descendant de la femme, un descendant de Adam et d'Ève, un être humain, tout simplement. Donc vous avez, je crois que vous avez sur votre cahier un petit carré qui marque Adam avec une flèche. Celui qui doit venir sortira d'Adam. Celui qui doit venir sera un être humain. Celui qui doit venir partagera la chair et le sang que nous avons, dans lequel nous vivons tous les jours. Il sera comme nous, nous serons aussi comme lui. Ce sera quelqu'un avec qui nous pouvons nous identifier. Après cette première allusion un peu obscure, donc, parce que tous les détails ne sont pas donnés, les indices vont s'accumuler au fil des pages de l'Ancien Testament, si bien qu'en arrivant à la fin de l'Ancien Testament, nous avons une silhouette plus précise, mais pas tout à fait définie encore, de ce que sera ce Christ qui doit venir. En ce qui concerne le déluge, le récit du déluge est digne de mention à deux titres. Premièrement, ce récit montre les conséquences du péché débridé. Quelles sont les conséquences non seulement pour l'être humain, mais aussi pour la nature de ce péché. Après son expulsion du jardin, l'humanité s'est enfoncée de plus en plus dans le mal et un jour Dieu a décidé d'y mettre fin à ce mal. Il a décidé même de détruire la quasi-totalité de la race. Il a choisi une famille, un homme et sa famille, Noé, qui demeure intègre au milieu de cette corruption et qui prend au sérieux les avertissements de Dieu. Lui seul, avec sa famille, est sauvé dans l'arche et aussi des spécimens, comme vous connaissez l'histoire, des spécimens du monde animal. Puis deuxièmement, la délivrance de Noé devient dans le Nouveau Testament un signe, une image, une sorte de figure du salut qui nous est offert. L'apôtre Pierre, en parlant de ce déluge, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, dit que ce déluge était une figure du baptême qui vous sauve à présent par la résurrection de Jésus-Christ.
Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour la première séance. Peut-être vous aurez quelques questions. Nous avons quelques minutes avant de redémarrer. Est-ce qu'il y a quelques... des commentaires?